Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Comment discerner, comment savoir, comment reconnaître que je suis la cible d'une attaque spirituelle ? Parce que parfois, ce n'est pas une attaque spirituelle. Parfois, c'est ma propre bêtise qui fait que je me retrouve dans une galère. Mais parfois, souvent même, c'est une attaque spirituelle. Mais avant de commencer à vous donner les signes, quelques signes ce soir, je vais en partager 3 ou 4 maximum. J'en ai une trentaine, mais je vais en partager 7 maximum dans la série. J'aimerais vous lire 2 passages fondamentaux qui vont, je l'espère, être pour vous des socles, des fondements ce soir dans votre vie. Le premier se trouve dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. La Bible dit « Par ma puissance à moi, Bruno ». Non. La Bible dit « Par sa puissance ». Celle de qui ? Celle de qui ? Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Juste ce verset-là disqualifie toutes les excuses que nous avons. Oh oh, ce n'est que l'introduction. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a déjà donné par sa puissance pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Dès l'instant où le Saint-Esprit m'a introduit à Jésus-Christ, qui m'a introduit au Père, je reçois une puissance qui vient vivre en moi et il me donne tout ce dont j'ai besoin pour vivre attaché à Jésus. Ha ha ! 1 Corinthiens 10, 13 nous dit, écoutez bien ça, c'est une phrase, un verset que j'aime lire quand je commence à tomber dans la plaidoirie, la plédicite, la maladie des chrétiens, la plédicite, je me plains, la planicite. Les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. Parce que souvent nous pensons, nous, que nous sommes des cas spéciaux. Que nous vivons des choses tellement difficiles que personne d'autre ne le vit et que personne ne peut comprendre. Il n'y a que moi qui galère avec Dieu. C'est faux. Dieu dit ici, toutes les tentations que la terre connaît, tout le monde la connaît. D'ailleurs, j'aime bien l'apôtre Paul. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, tout le monde dit au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir afin ou pour que vous puissiez y résister. Alors quand on me dit j'ai été tenté, j'ai appelé Dieu, son numéro était occupé, et du coup, je suis tombé. Oublie. Tu vas revenir à 1 Corinthiens 10, 13 qui dit qu'à chaque fois que tu es tenté, Dieu est là pour te donner le moyen d'en sortir. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous pouvons aller de force en force, de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'autorité en autorité. Nous pouvons marcher d'une manière digne du Seigneur. Vous savez, il y a quelques années de cela, peut-être 30, 40 ans, les gens qui étaient attaqués par une crise cardiaque mouraient pour la plupart d'entre eux. Il y avait 9% de il y avait 90% de chances que tu mourrais d'une crise cardiaque. Pourquoi ? À cause de l'ignorance des hommes et des femmes autour des témoins de la crise ou de la personne elle-même victime de la crise qui ne savait pas comment reconnaître les signes d'une crise cardiaque. Exemple, combien ce soir vous savez reconnaître qu'un quelqu'un en face de vous a une crise cardiaque ? Levez la main s'il vous plaît, soyez sûr de vous. Oh, ça fait peur. J'encourage tous les frères et sœurs en crise ce soir ici présents, n'ayez pas une crise cardiaque ici parce que personne ne pourra vous sauver. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Mon père, il y a environ 3 ans, je crois, 3-4 ans, je ne sais plus, 2 ans, 3 ans, dans la vie, hein, dans la vie que j'ai vécue, a eu une crise cardiaque. Et je n'oublie jamais ça. Je sors de chez moi et Dieu me dit « Appelle ta mère ». Je dis, Seigneur, je conduis, donc je vais appeler plus tard. Il me dit, non, appelle ta mère, gare-toi et appelle ta mère. Je me gare, j'appelle ma mère, et elle est vraiment paniquée. Elle me dit, papa, fais une crise, il ne se sent pas très bien, et lui, mon père. C'est mon père. Toujours positif. Mais non, simplement, j'ai simplement un mal de ventre. J'ai maman, décris-moi les symptômes. Elle me dit tout ce qui est décrit ici. Douleur dans la poitrine. Elle me dit douleur au bras. Mal à la mâchoire. Je dis oula. Essoufflement, vomissement, envie de vomir, nausée. Elle me dit, bah, écoute, je vais appeler un médecin. Je dis non, appelle le SMUR. Mais ma maman que j'aime ne m'écoute pas. Elle appelle le médecin. Et le médecin lui pose la même question que moi, parce que je suis un médecin prophétique. Et il dit, décrivez-moi les symptômes. Et elle décrit les symptômes. Et lui, il dit, j'envoie le SMUR avant qu'il aille dans le mur. Et il était sauvé in extremis d'une crise cardiaque. Maintenant, mon père a un cœur monté sur ressort. Le problème des chrétiens, c'est que la plupart d'entre nous, nous ne savons pas reconnaître les signes que nous sommes en train de faire une crise cardiaque spirituelle. Nous ne savons pas souvent reconnaître que nous sommes sous une attaque de l'ennemi. Vous savez, Satan est extrêmement motivé et Satan est extrêmement passionné par une chose. Jean 10:10 nous dit que le voleur, le diable, vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Mais Christ dit, moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et la vie en abondance. Jean 8:44 nous dit, votre père c'est le diable et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle son propre fond puisqu'il est menteur et lui le père du mensonge. En d'autres termes, le diable n'a qu'un seul but, c'est de te mentir sur ta vie, de te détruire, de te casser en mille morceaux, de t'étouffer, de te briser. Il est passionné par ça. Son but est de nous détruire. Et ce n'est pas une mauvaise confession, c'est simplement un fait. Si toi et moi, nous dormons, si nous dormons dans l'esprit, nous mourrons à petit feu. Et si nous ne savons pas reconnaître les signes qui prouvent que nous sommes victimes d'une crise cardiaque spirituelle ou que notre frère, notre sœur est victime d'une crise cardiaque spirituelle, nous sommes coupables de non-assistance à personne en danger. Mais la bonne nouvelle se retrouve encore dans 1 Corinthiens 10, 13 qui dit « Les tentations qui vont vous assaillir ou qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes et à toutes les femmes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces au moment de la tentation et il préparera le moyen d'en sortir pour que vous y puissiez y résister. Dieu est avec toi au moment où tu es attaqué. Et lorsque le diable attaque, le ciel contre-attaque. » Et Dieu est toujours là ce soir et il veut te prendre en disant, Église, lève ton regard vers le ciel, ta résistance, ta forteresse, ta puissance, ton autorité vient de la présence de Dieu. Et tu peux ce soir quitter ce lieu en disant, je refuse d'être la cible de Satan, à moi d'en faire de lui une cible. Quand je me lève le matin, je dis, Saint-Esprit, montre-moi quelles sont les cibles de ton amour. Et quelles sont les cibles de ton jugement? Le jugement ne tombe jamais sur les hommes et les femmes, car Dieu a tant aimé le monde qu'il veut que le monde connaisse, non pas le jugement de Dieu, mais l'amour et la grâce de Dieu. Mais par contre, quand tu te réveilles le matin, tu es un bazooka entre les mains de Dieu, dont les cibles sont les démons qui attaquent ceux et celles qui t'entourent. Je veux redire ça. Tu as un bazooka entre les mains de Dieu et les cibles que Dieu te donne sont les démons et les esprits mauvais dans les lieux célestes qui attaquent ceux et celles que tu aimes. Je refuse que l'Église Extravagance soit accusée un jour de non-assistance à personne en danger. Alors comment faire ce soir? Comment faire pour reconnaître que toi ou moi ou quelqu'un dans l'Église ou autour de toi est victime d'une crise cardiaque spirituelle, victime ou la cible d'une attaque de l'ennemi? Qui aimerait savoir vraiment comment on sait ça? Ok, revenez la semaine prochaine. On va. Premièrement, la première chose qui me dira si oui ou non, je suis en ce moment assailli par l'ennemi. Et je commence une série ce soir qui va vous montrer comment le diable, qui est comparé par le Saint-Esprit comme un serpent, l'esprit de Python. Et c'est le seul, d'ailleurs, c'est le seul esprit dans le Nouveau Testament, dans les livres des Actes, que le Saint-Esprit révèle avec un nom. En général, il dit démon, mauvais esprit, ce que vous voulez. Mais là, il dit esprit de Python. Pour révéler comment le diable attaque l'Église. Si vous connaissez un peu les serpents, si vous aimez étudier les serpents, vous vous rendrez compte que le python, les pythons en général, mais le python, ne tue pas par son venin. Il tue en s'entourant autour de sa proie, en serrant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de souffle de vie. Regarde ton voisin et dit « respire ». Quand le python rentre dans une vie ou dans une maison ou dans, vers sa proie, il ne vient pas en disant « Salut, c'est moi, python ». Il vient tout doucement et il commence à s'entourer autour de ta jambe. Et 98% des morts qui sont dues à un python arrivent durant leur sommeil. La première chose ce soir, notez s'il vous plaît, Église, qui vous permettra de savoir si toi, ou ton voisin, ou ton mari, ou ton épouse, êtes victime en ce moment même d'une attaque spirituelle, d'une crise cardiaque spirituelle, d'un manque de souffle, d'un étouffement de l'esprit de Python, d'un problème spirituel. Et le suivant, premièrement, une perte du désir spirituel pour les choses de Dieu et pour son royaume. De l'instant où tu n'as plus vraiment envie de prier. De l'instant où tu n'as plus de joie dans la parole de Dieu. De l'instant, je ne parle pas d'un jour ou deux où tu n'as pas trop le moral et tu rates un jour ou deux. Je ne parle pas de ça, je parle de cette saison où tu sens que tu n'as plus envie de prier, tu ne veux plus prier, tu ne veux plus lire ta Bible. Venir à l'église devient un supplice. Tu viens parce qu'il faut que tu viennes, parce que tu es fidèle, parce que tu aimes Dieu, mais bon, ça s'arrête là. Tu perds la passion pour les choses qui concernent Dieu. C'est le premier signe qu'un esprit de Python a commencé à attaquer ta vie. Premier signe, tu peux tourner ça dans tous les sens du terme. L'apôtre, pas l'apôtre, le prophète psalmiste David, dans le psaume 63, verset 1 à 5 nous dit « Oh Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. » Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Ce verset décrit cet homme qui n'a jamais perdu la passion pour la présence de Dieu. Il soupire après la présence de Dieu. Et je me demande combien de chrétiens le matin se lèvent en disant « Oh, j'ai hâte de me réveiller parce que je soupire après ta présence. » Ou « Je n'ai pas envie de dormir parce que je soupire après ta présence. » J'ai appelé Steve il y a deux jours, ou hier soir, je ne sais plus très bien, il était déjà presque 10 heures. Et c'est l'heure où on s'échange nos requêtes de prière. Et il me dit, ok, j'ai prié pour toi, mais tu sais, demain matin, je travaille très très tôt pour être dans sa présence et faire son travail, faire son œuvre. Demain, je me lève à 4 heures du matin. Je dis, gloire à Dieu. J'aime fréquenter des hommes et des femmes qui m'inspirent à soupirer après Dieu. Fréquente des morts et ils n'auront rien à te dire. Va un jour dans un cimetière, parle avec eux et sois inspiré. Je me défie. Non, mon âme soupire après toi, Seigneur Jésus, je veux te connaître. Le premier signe ce soir, qui peut-être c'est ton cas ce soir, qui te dit « Oh, oh, faut que je fasse attention, je me sens en ce moment comme partir, je me sens comme étouffé, j'ai perdu le feu de mon premier amour, je ne suis plus trop en feu pour Dieu, franchement, je préfère louer Dieu assis. » Désolé. Vous savez, j'ai vu plusieurs fois Les chrétiens en feu sont souvent assis au premier rang. Les chrétiens moins en feu sont sur le dernier rang. C'est... Non, pas vrai. Église, écoute ça. Écoute bien ça. Si tu n'es pas sûr de la réponse, écoute bien cela. Est-ce que tu trouves plus de joie dans les choses de ce monde que dans la présence de Dieu? Est-ce que tu trouves plus de joie dans le fun, le sport, la Coupe du Monde, rien de mal, que dans la parole de Dieu? Parce que si c'est le cas, tu es déjà en train de subir un début de crise cardiaque spirituelle. Il faut que la source de notre joie soit toujours la présence de Dieu et sa parole. Est-ce que lire un livre chrétien te procure plus de joie que lire la Bible du Créateur? Est-ce que chanter un chant chrétien te donne plus de joie que simplement adorer Jésus avec tes tripes? Le nombre de fois où je n'ai pas les paroles pour décrire ce que je ressens pour lui, je me mets à chanter en langue Rake panto ko ya santa ka, reche ke pato ko ya santa ka ya santo granke yanto ko. Et lui comprend mon cœur. Regarde ton voisin et dis-lui, es-tu en danger? Dis-lui, respire. La deuxième chose qui est extrêmement intéressante, qui va vous prendre un peu de cours, je pense. Premièrement, est-ce que tu as perdu de l'intérêt et du désir et de la passion pour les choses de l'esprit, sa présence, sa parole? Deuxièmement, ce soir, est-ce que tu te sens fatigué physiquement et émotionnellement? Est-ce que tu es fatigué tout le temps? Il y a des chrétiens, je les croise, comment ça va? Fatigué. Mais tout le temps! J'ai envie de dire, bon, bah, quel jour tu seras en forme? Dis-moi quel jour je te rappelle. Comment ça va? Pasteur, prie pour moi, elle est dure. Mais tout le temps c'est dur comme ça? Oui, tout le temps. Non, aujourd'hui les pires. Nous avons été créés avec un corps. Vous êtes au courant de ça? J'espère. Et des émotions, vous êtes au courant de ça? Les émotions ne sont pas mauvaises, mais il est mauvais d'être conduit par ces émotions. Et nous sommes un esprit. Écoutez bien ça. Dans 1 Roi 19, j'aime ce passage, je trouve ça extraordinaire. 1 Roi 19, et rapidement le contexte, c'est que Élie vient de terrasser les prophètes de Baal. Le gars est dangereux, il a bouffé, bousillé dans l'esprit plusieurs centaines de prophètes de Baal. Il a fait un super combat, il a dit, on va faire un genre de trou, on va mettre du bois dedans, dans le mien, on va mettre de l'eau, enfin, on va de l'eau pour le deux, on va mouiller le bois, on va tout faire pour moi, et vous serez du bois sec, pas de problème. Invitez votre Dieu à mettre le feu à l'autel, et moi je mettrai le mien, vous connaissez l'histoire, ils sont coupés, ils ont dansé, ils ont sauté, ils ont roulé par terre, incantation, ce que vous voulez, ils ont été déprimés par la chose. Élie a fait, oh Dieu du ciel, réponds par le feu, bam, le feu est descendu. Et Dieu a détruit tous les prophètes de Baal présents. Le contexte est le suivant. 1 Roi 19:1 qui dit « Akab raconta à la reine Jézabel, n'appelez pas votre fille Jézabel, tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me punissent très sévèrement si demain à la même heure je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Et Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il y a environ un mois de cela, j'étais invité en Suisse. Et pendant 2 semaines, j'ai eu 15 ou 16 réunions. Des réunions qui étaient parfois très sensibles. Aucun moment pour me détendre, rien. 15 jours comme ça. Et en plus, Élodie s'amusait avec moi tel un yo-yo pour me dire « Je vais accoucher, je ne vais pas accoucher. Je vais accoucher, je ne vais pas accoucher. » Et en plus, le fardeau, dans le bon sens du terme, le fardeau de l'amour que j'ai pour vous, le peuple de Dieu à La Réunion. Et je commence, j'ai fait ces deux semaines-là à fond pour Dieu, et Dieu voit mon cœur, je dis, viens à fond, et je rentre ici, et j'appelle pasteur Steve, et je lui dis, Steve, je suis à plat physiquement, je suis à plat dans mes émotions, je ne peux pas prêcher. J'ai trop donné là en deux semaines. Il faut que je fasse attention, il faut que je me retire. Et je me rappelle que le premier week-end ici, parce que vous vous souvenez, on a eu deux soirées d'adoration. Juste adorer. J'avais besoin d'adorer pour me ressourcer avec le peuple de Dieu que vous êtes. Et j'ai pris du recul et j'ai attendu simplement d'être à nouveau en forme comme ce soir pour prêcher avec vous. Et Élie ici a fait la même chose. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, quand tu n'es pas bien physiquement et dans tes émotions, tu deviens une proie facile de l'ennemi. Et ici, Élie prit peur, verset 3, s'enfuit pour sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Deuxième erreur, il laisse quelqu'un qui peut l'aider. Il abandonne ceux qui sont autour de lui, son serviteur là pour le soutenir, l'aider à manger. Il le laisse. Puis il s'enfonça dans le désert. Pouh, le gars est dangereusement, totalement à côté de la plaque. Il vient d'avoir une victoire et il fuit seul dans le désert sans aucune aide, alors qu'il a peur et qu'il est fatigué. Beaucoup de chrétiens me disent, oh pasteur, en ce moment ça va pas, je prends un break. Eh bien le diable va te breaker. Écoutez ça. Verset 4. Puis, après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. Ça c'est une prière ça. C'en est trop, dit-il. Maintenant Éternel, prends-moi la vie car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Prends-moi la vie. Église, quand tu viens de vivre une victoire aussi puissante que cela, ou une victoire spirituelle, ou quand tu es sur le point de vivre une victoire spirituelle, il y a de fortes chances que ta vie soit drainée dans tes émotions, drainée dans ton corps physique. Pourquoi ? Parce que le monde spirituel demande beaucoup d'énergie. Et quand tu vis une vie intense avec Dieu, ton corps peut en subir les conséquences, ton âme peut en subir les conséquences. C'est pour cela qu'il faut faire attention à notre état physique et émotionnel si nous voulons tenir la cadence pour servir Dieu. Écoutez ça, 1 Roi 19, verset 8 maintenant nous dit « Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et prie. Lève-toi et jeûne. Lève-toi et va au groupe de prière. » Non, il dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Le gars est dangereux. Et moi, si un ange me réveille à faire manger pour moi, je m'en couche pas. Hein. T'imagines la situation, tu te réveilles un soir, tu fais « Oh, c'est un ange !» Et t'as fait quoi ? J'ai fait pour toi un petit saucisse, un petit peu de riz avec piment et un petit peu de grain, voilà. Et ok, mais tu manges et tu redors ? Je redors pas. Mais là, Élie redort. Verset 7, l'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis fortifié par cette... On a le droit de manger. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Église, ce point signifie, comment savoir si tu es s'il y a un signe de crise cardiaque spirituelle, tu es sous une attaque, tu es assiégé par l'ennemi, si tu es physiquement toujours fatigué et si dans tes émotions tu es toujours fragile, tu ne peux pas avoir l'impact spirituel que Dieu veut que tu aies. Je connais des gens qui prient en langue 5 heures par jour, 5 heures ils prient en langue, mais quand ils marchent tels des zombies. Ils sont fatigués, ils sont agacés. J'ai vécu ça moi-même. Je prie 5 heures, je sors de la prière, je suis extrêmement agressif envers ma femme. J'ai vécu ça ? Parce que quelque part, mon corps n'était pas prêt à recevoir toute l'onction que Dieu voulait que je porte. J'étais fatigué et je ne peux pas fonctionner. Il y a un temps pour tout, un temps pour jeûner, il y a un temps pour se nourrir, bien se nourrir. Si tu ne veux pas être une cible de Satan, apprends à bien te nourrir. Apprends à bien boire de l'eau. Apprends à être sage avec ta santé. Sinon, tu ne tiendras pas la cadence. Et un jour, tu tomberas enceinte comme en disant, Seigneur, aide-moi, et il va t'aider, il peut t'aider, mais tu ne seras pas efficace. J'aime ce verset quand Christ dit, prends mon joug sur vous, sur toi, il est léger. Ma vie avec moi est belle, elle est pleine d'attaques, c'est sûr, mais dans cette attaque, je suis ta paix. La paix n'est pas l'absence de guerre, la paix est une personne, Christ. Retournez, dis-lui, est-ce que tu es en bonne santé physique? Cette semaine, je regardais une émission sur les produits auxquels il faut faire attention. Les chips, par exemple. Ne lève pas la main, mais qui mange des chips? Dans une chips, tout le monde dit chips. Dans une chips, il y a 50% de graisse. 50% de graisse. Et nous voulons être en forme pour prier le matin à 4h30, 5h. Mais nous mangeons des chips. Je ne dis pas qu'il faut devenir religieux, sectaire. Et quand vous passez au supermarché devant les chips, vous faites Alléluia, Karabapato Koria, Santo Koria, Sante. Non. Je vous parle de cette faculté de sentir, attention Seigneur, je veux être efficace pour toi. Je veux être en forme. Je ne parle pas de ceux et de celles qui, comme moi, à une époque, se sentaient mal par rapport à votre poids. Dans mon cas, moi, j'en avais pas assez. Et ça m'énervait de passer devant dans les pharmacies, et je voyais comment mincir, toute de minceur. Je dis, mais c'est où grossir donc? Toutes ces mincir, c'est où grossir? Donne un peu donc. Et je suis allé plusieurs fois voir des psychologues de la bouffe. Comment ça s'appelle encore ça? Des nutritionnistes, voilà. Psychologues de la bouffe. C'est un nouveau boulot. Et le gars, mais alors vraiment, pas du tout psychologue justement. Il me dit, vous grossirez jamais, vous ne grossirez jamais. Je regarde le gars, je fais, lui, je ne vais pas le payer. Je ne vais pas le payer, c'est sûr. Vous ne grossirez jamais, vous êtes né comme ça, restez comme ça. Et en 2009-2010, j'ai vraiment fait une dépression. Vraiment fait une dépression. Et je pesais 49,5 kg. Habillé. Et j'étais démoralisé. Et parce que toute ma vie, mes amis, ma famille proche, pas mes parents, mais ma famille, se moquaient de moi. Quand je courais, on disait, oh, deux baguettes de jazz qui courent. Si pour prendre une douche, il faut que je saute pour avoir une goutte. Pour aller voir Elodie en secret, je me faxais. Va falloir applaudir, ça ne me dérange pas. Hein. Vous paierez à la fin de, hein, vous paierez quand vous sortirez. Et l'église, écoutez ça, mes amis. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas fonctionner pour Dieu. J'aimais Jésus, je priais, j'aimais ma Bible. Et j'arrivais pas à fonctionner pour Dieu. 1, 2, 3, 4 jours, j'étais en forme. Et après 4, 5 jours, j'étais pas en forme du tout. J'étais fatigué, j'avais du mal. Et je carburais au coca, je buvais 2 litres de coca par jour. Je mangeais au McDo 10 fois par semaine. McDo, c'est... Et aujourd'hui, je pèse 61 kilos. J'ai encore beaucoup à prendre. Mais 10 kilos en 2 ans. Pas de graisse. Parce que j'essaye de manger juste. Je pourrais peut-être prendre plus de poids, mais ce n'est pas ce que je veux. Pourquoi je fais ça ce soir? Pour faire l'intéressant? Non. Je vais vous inspirer à vous dire que notre vie ne consiste pas seulement je prie à l'église le matin, puis c'est cool. Il y a tout un ensemble de choses qui font qu'on peut se protéger d'attaques de l'ennemi. Ne ratez pas les prochains points, j'ai presque fini. Il y a plusieurs points qui vont suivre dans les semaines qui viennent. Il y a environ 7 ou 8 signes qui prouvera que vous êtes peut-être ou que votre prochain, votre voisin, votre ami, votre épouse est en train de subir une crise cardiaque spirituelle. Et mon cœur de pasteur n'est pas de vous faire peur, mais de vous dire « Hey, on est là pour t'aider, on va te donner tous les soins possibles et inimaginables parce que tu dois être un plus que vainqueur. Tu dois vivre ta vie avec de la joie. » Je m'arrête là parce que le prochain point est tellement puissant que je ne peux pas le brader. Mais il y a un besoin ce soir, urgent, deux points. Ce soir, on n'a vu que deux points, c'est impressionnant. Premièrement, est-ce que tu as perdu de l'appétit pour les choses de Dieu? Je ne te parle pas de dire, ben non, tu sais, je viens tout le temps à l'église. Ce n'est pas ce que je demande. Je demande, est-ce que lorsque tu viens à l'église, tu es vraiment présent? Lorsque tu adores vraiment. Est-ce que la passion pour les âmes brûle en toi? Est-ce que l'injustice te réveille? Est-ce que sa mission nourrit ton âme au quotidien? Est-ce que sa parole est ta nourriture? Car ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, dit Jésus-Christ. Est-ce que ta vie, est-ce que ton cœur est comme une fontaine d'eau vive? Car celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. On ne peut pas se limiter à un petit cantique le dimanche, un petit cantique le samedi, on ne peut pas. Est-ce que j'ai soif des choses de l'esprit? J'ai été souvent attaqué dans ma vie, souvent. À chaque fois que je suis tombé, Steve, à chaque fois que je suis tombé, il y avait deux choses. Émilie, deux choses. Premièrement, ma Bible était remplie de poussière. Et deuxièmement, la présence de Dieu était moins attrayante que la télévision. Les jours qui ont suivi cet état s'est soldé par un échec. Je suis persuadé ce soir, vous avez tous vécu ça quelque part. Et je suis sûr ce soir, par l'esprit de Christ qui est en moi, que lorsqu'on fera un appel ce soir, beaucoup d'entre vous, si vous avez le cran et le courage, vous me direz, je suis en plein dedans. J'ai un gros problème en ce moment de passion et de zèle pour la présence de Dieu. Je fais croire que tout va bien, mais au fond de moi, je perds de fur et à mesure ma passion et mon feu pour sa présence et sa parole. D'autres me diront, tu sais Bruno, je me sens fatigué tout le temps, fatigué, malade, fatigué. Par mes émotions, j'ai plus de patience avec mes enfants, plus de patience avec mon mari, plus de patience avec ma femme, plus de patience avec mon patron, plus de patience, j'en ai marre. Pourtant je prie, mais rien ne se passe. Je me sens fatigué physiquement, je me sens fatigué dans mes émotions. C'est comme si j'ai trop donné, je n'arrive plus à savoir où sont mes sources. Où est ma source? Je n'arrive plus à la comprendre. Il me faut un musicien, s'il vous plaît. Soit c'est ton cas, j'aimerais te donner une chance de pour commencer cette série, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu comprennes que si tu n'es pas en feu, même si moi ou Steve, on est extrêmement en feu, rien ne se passera à la Réunion parce que la Réunion sera sauvée non pas par un homme, mais par un peuple de Dieu. Qui a déjà fait un barbecue? On dit ça ici à la Réunion, barbecue? Et vous mettez des charbons dans le barbecue, vous mettez un feu et les charbons commencent à être en feu, d'accord, tous sont rouges, violets, mauves, rouges, c'est très chaud là. Et vous enlevez un charbon et vous le mettez à 3, 4, 5 mètres du lieu. Le charbon se refroidit, oui ou non? Mais la bonne nouvelle, c'est que le charbon garde toutes ses qualités. Dès que tu le reprends, tu le remets dans le feu, il reprend feu. Ne pense pas que parce que tu n'es plus en feu, tu n'as plus la qualité de redevenir en feu. La qualité de redevenir en feu vient de Dieu. Il t'a créé pour être en feu pour lui. Il t'a créé pour être en feu pour lui. Il t'a créé pour aimer sa présence. Il t'a créé pour aimer sa parole.